Today will be chaired by Professor Peter Cause of Hunter College, and Professor Loewenberg of University of California, Berkeley has consented to initiate the discussion. Consequently, he will be at the table with Professor Hippolyte. Today, we've retired with honors Professor Vanier, and Professor Jerry Camber is taking a crack at the simultaneous translation. Commuting between here and the UN. Session stands convened.
The search for structuralism seems to have led from sociology to literature and now today to philosophy. And it's an unusual privilege to have at the same table in the 20th century two such distinguished Hegelians as Professor Hippolyte and Professor Loewenberg. I count it a privilege to be able to introduce to you Professor Jean Hippolyte of the Collège de France, who will present a paper on structure du langage philosophique d'après la préface de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Professor Hippolyte.
Mon cher collègue, mes chers collègues, mesdames, messieurs, faut-il vous dire, et ce n'est pas un artifice de langage, que je suis assez intimidé de parler de la philosophie de Hegel dans un milieu qui domine le problème actuel des sciences humaines. D'abord, vous m'excuserez, si je ne lis pas mon texte, à quoi bon venir pour lire un texte que tout le monde peut lire? Naturellement, c'est le même contenu, mais la parole sera quelque peu différente et j'espère plus vivante que le texte lui-même. Mais est-il encore temps de parler de Hegel alors que les sciences se sont progressivement substitués à notre époque à la pensée métaphysique, et où même les sciences humaines, et la première d'entre elles, du moins elle le croit, la linguistique, s'est substituée à une pensée philosophique. De telle sorte que la question est la suivante. Reste-t-il encore une place pour ce qu'on a appelé pendant des générations la pensée philosophique? Y a-t-il une place pour la spéculation philosophique? Et le thème de cette communication, c'est, supposons, qu'il existera toujours des philosophes, peut-être pas de la même façon qu'il en a existé autrefois. C'est nous poser la question. En quoi consiste le discours philosophique? Quel est le style de la pensée philosophique? Comme on peut se poser la question à propos de grandes œuvres littéraires, et Hegel les connaissait bien, ces œuvres littéraires. Comme on peut se poser la question à propos de la Comédie humaine de Balzac, de la Divine Comédie ou du Don Quichotte de Cervantes. Quel est le style d'une œuvre philosophique? Qu'est-ce qui fait le caractère du langage philosophique? Et c'est pour ça que je me sens maintenant moins intimidé, car en fin de compte, c'est encore du langage que nous allons parler, et c'est de la rhétorique, la bonne j'espère, de la rhétorique de la philosophie que nous allons tenter de parler aujourd'hui. On a souvent dit de Hegel qu'il était le dernier philosophe, du moins le dernier philosophe classique. Avec lui peut-être. Après lui, à coup sûr, commence le déclin de la métaphysique. Qui oserait encore aujourd'hui se dire métaphysicien? Deux grands chercheurs qui ont succédé à Hegel et qui ont ouvert des voies nouvelles, Nietzsche, Marx, Freud, ont-ils continuer la pensée philosophique ou la pensée métaphysique Où en ont-ils fait la critique? Bref, nous nous demandons ce que peut signifier encore une pensée qui n'appartient pas à la science positive et qui toutefois ne peut plus être ce qu'a été l'ontologie classique. Quelle est la place de cette pensée? Et comme j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure, quelle est la place de ce langage et non pas seulement de cette pensée? Si justement, parce que Hegel est le dernier des grands métaphysiciens, et parce que non seulement il est le dernier pour nous, mais parce que lui-même en a eu une très claire conscience. Il a eu la conscience qu'avec lui, quelque chose se terminait et que la pensée philosophique ne pourrait plus être qu'une pensée de ce qu'avait été la philosophie. C'est justement pour cela que nous allons l'interroger. Nous sommes un peu, par rapport à Hegel, ce que fut le Moyen-Âge par rapport à Aristote. Sa grande ombre couvre tous les essais philosophiques qui se firent jour pour ou contre lui. Hier encore, Hegel était considéré comme l'inspirateur d'une pensée historique et génétique. C'était la pensée de l'histoire de la philosophie à la place de la philosophie. Maintenant, depuis la nouvelle découverte de la phénoménologie de l'esprit, on a considéré Hegel comme une des sources de la pensée contemporaine et de l'existentialisme. Cependant, la pensée la plus moderne, je fais allusion à ces ruptures dont j'ai dit un mot l'autre soir, la pensée la plus moderne se détache de cet existentialisme et de cette histoire. Elle est plus sensible au système, aux correspondances, au système formel, à la systématicité des systèmes. Elle s'intéresse à la pensée formelle et l'histoire passe un mauvais quart d'heure, si j'ose dire, dans cette nouvelle forme de pensée. Ici, c'est un autre grand philosophe qui pourrait être l'inspirateur de la pensée moderne. C'est le nom de Leibniz, grand sceptique, à la fois l'homme des conciles et l'homme de tous les modèles formels qu'on pouvait construire, quels qu'ils soient. C'est plutôt Leibniz qui est l'inspirateur de la pensée moderne, plutôt que Hegel. Mais je voudrais penser qu'il y a une certaine ressemblance entre ces deux esprits universels. Le formalisme de Leibniz est tellement inventif et tellement fécond qu'il rejoint une pensée du contenu. Et la pensée de Hegel, qui a dit « En art comme partout, c'est le contenu qui compte », la pensée de Hegel sur le contenu est une pensée qui a tellement cherché la systématicité et la totalisation que, dans sa visée ultime, elle peut rejoindre la pensée de Leibniz. Un jour viendra peut-être où on réconciliera Leibniz et Hegel. Et l'histoire aura son mot à dire là-dessus, puisque Hegel a subi profondément l'influence de Leibniz. Mais revenons à notre question préalable. N'est-il pas trop tard pour s'occuper encore de Hegel? Que pouvons-nous apprendre de lui? Qu'avons-nous à lui demander? Je me hâte de vous le dire, je n'ai nulle intention de faire revivre un système du passé et de me classer parmi les hegeliens de droite ou de gauche, il y en a eu assez, ou même du centre. Non, ce n'est pas là la question. Seulement, l'œuvre de Hegel, et particulièrement deux œuvres, la phénoménologie de l'esprit et la Wissenschaft der Logik, la science de la logique, sont comme des modèles d'une présentation et d'un discours raide, d'un discours philosophique. Comme la Divine Comédie de Dante, comme le Don Quichotte de Cervantes ou comme la Comédie humaine de Balzac, je prends des choses très diverses, sont des œuvres dont nous pouvons étudier la structure, l'organisation du discours. Ainsi pouvons-nous considérer dans ces œuvres philosophiques de Hegel le discours philosophique comme tel. La comparaison avec les œuvres littéraires s'impose d'autant plus que Hegel l'a faite lui-même. Mais la différence entre un discours littéraire et un discours philosophique est quand même très importante. Le discours littéraire, le roman, est une spéculation imaginaire. Le discours philosophique engage une norme de vérité. Enfin, et c'est surtout là la différence, le discours philosophique contient sa propre critique en lui-même. Je sais bien que Rob Grillet fait la critique des romans de Rob Grillet. Elle est moins bonne que les romans de Rob Grillet, à mon avis. Mais la critique ne fait pas absolument partie du roman lui-même. Dans une pensée philosophique, dans un discours philosophique, on parle, nous nous demanderons tout à l'heure qui parle, on parle, mais on parle aussi sur sa propre parole. Et la parole sur la parole fait partie du langage philosophique lui-même. C'est-à-dire, c'est à ce titre qu'il est intéressant d'étudier la préface de la phénoménologie de Hegel. Hegel a écrit cette préface après coup. En 1807, Hegel venait d'écrire, et il ne savait peut-être pas lui-même ce qu'il allait écrire. Il a écrit dans des conditions tout à fait extraordinaires, pressé par l'éditeur, une œuvre dont il ne savait pas quel serait le terme quand il l'a commencé, et qui s'appelle la phénoménologie de l'esprit. Bien entendu, ce n'est pas une œuvre hâtive. Hegel avait dépassé 30 ans. Il avait, pendant des années et des années, médité ou réalisé des œuvres qui étaient des ébauches de système. Et finalement, il a donné presque toute sa pensée dans une œuvre qui est la phénoménologie en 1807. Une œuvre dont, je le répète, la comparaison s'imposerait avec de grandes œuvres littéraires, avec Don Quichotte ou avec la Divine Comédie, les titres divers. Seulement cette fois-ci, c'est une comédie terrestre, la phénoménologie de l'esprit. Hegel a écrit cela, et quand il a eu terminé cette œuvre dont il pensait, à tort à mon avis, qu'elle était immédiatement accessible, puisqu'elle traitait après tout de la conscience ordinaire, de la conscience commune, nous dirons aujourd'hui, si vous le voulez bien, du langage quotidien. Mais toutefois, elle était quand même une des œuvres les plus difficiles de Hegel, car il est fort difficile, peut-être est-il plus difficile que tout, de parler du langage quotidien et de la commune conscience, ou de l'expérience commune. Hegel en a donc parlé, et quand il a eu terminé cette œuvre, il a, rétrospectivement, réfléchi sur sa pensée philosophique. Et il a écrit une préface, qui est le thème de ma communication d'aujourd'hui. Une préface, l'introduction est autre chose. L'introduction a été faite dès le début, cette introduction si admirablement commentée. Mais les philosophes qui commentent les autres philosophes en ajoutent quelque peu, si admirablement commentée par Heidegger. Hegel a donc écrit cette préface pour dire ce qu'était pour lui le discours philosophique. Cette préface est cependant une étrange démonstration, car Hegel dit surtout « Ne me prenez pas au sérieux dans une préface. La véritable œuvre philosophique ne peut pas être une préface. L'œuvre philosophique, c'est ce que je viens d'écrire, ça s'appelle la phénoménologie de l'esprit. Et si je vous parle en marge de ce que j'ai écrit, cette parole en marge ne peut pas valoir pour l'œuvre elle-même. D'ailleurs, dit-il, je vais en écrire une autre œuvre, très différente, et qui sera la logique spéculative. Voilà donc cette préface qui oscille entre les deux œuvres maîtresses de Hegel. À mon avis, le reste du système n'a pas la même importance. À ce moment-là, il y a une sorte d'oscillation de Hegel entre deux œuvres fondamentales qui touchent de très près à notre problème du langage. L'une qu'il vient d'écrire, c'est la phénoménologie de l'esprit. L'autre qu'il médite, c'est la logique spéculative. D'un côté, dirons-nous, c'est la parole, et de l'autre côté, c'est la langue, ou quelque chose encore de plus profond que la langue. D'un côté, c'est la conscience commune qui parle et sur laquelle le philosophe parle, et de l'autre côté, c'est quoi ? C'est l'être qui parle dans une structure dont la profondeur est insondable et qui est la pensée philosophique par excellence. Phénoménologie, logique spéculative, voilà les deux œuvres que Hegel présente dans cette préface, en ajoutant, ne prenez pas au sérieux une préface. La préface énonce un projet. Le projet n'est rien, c'est le contenu qui compte, et c'est lorsque le philosophe est en proie au contenu que vous pouvez déceler sa méthode. Il n'y a pas d'instrument préalable, il n'y a pas de projet antérieur à sa réalisation. Ça, c'est vrai pour les mathématiques ou pour les sciences, pour la philosophie comme pour la littérature. Il ne sert à rien de parler d'un roman, il faut le faire. En philosophie aussi. Et voilà que je suis très infidèle à Hegel. Je présente sa préface. Dans quelques semaines va paraître une traduction rectifiée de celle que j'ai donnée. De la préface et de la préface seule, avec un commentaire de la préface, comme si je n'étais pas sensible à ce que dit Hegel tout au long de cette préface. La préface, c'est pour les gens qui veulent parler sur, et non pas pour les gens qui parlent dedans. La préface, c'est une certaine façon de donner les lignes ou les structures générales d'un système qui doit être lui-même son développement concret. Et je fais avec Hegel ce qui est arrivé dans l'histoire de la philosophie à Descartes. Seulement, la méthode, c'est Descartes, est distincte de son objet. Si Hegel, elle ne l'est pas. Et par conséquent, c'est pire de couper la préface de Hegel de cette œuvre, de ce grand roman de culture qu'est la phénoménologie, ou de cette œuvre géniale qu'est la logique spéculative. C'est pire de la couper, puisque c'est supposé qu'on peut dire quel est le projet et quel est l'instrument avant de le mettre en œuvre. Qu'est-ce que je peux donner comme excuse ? Eh bien, c'est parce que je ne suis pas hegelien. Plus exactement, parce que quelle que soit la grande admiration que nous puissions avoir pour la phénoménologie de l'esprit ou pour la logique spéculative, nous savons bien que nous ne pouvons pas les considérer comme l'expression de la totalité. C'est pour cela que nous sommes plus sensibles au projet de totalisation de Hegel qu'à la totalité qu'il croit avoir réalisée. Ce que Hegel nous dit de ce que peut être un discours philosophique, du style d'un discours philosophique, ce style c'est la dialectique, de ce que peut être le style, ou ce que Hegel appelle la dialectique, le style d'un discours philosophique, cela nous passionne bien davantage aujourd'hui que de prendre au sérieux le système réalisé. Naturellement, de même que Hegel dit que le Parménide est la plus grande œuvre d'art philosophique de l'Antiquité, dans la préface justement, nous continuerons de considérer que la phénoménologie de l'esprit est une grande œuvre philosophique, et la logique spéculative aussi, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quel était pour Hegel le sens, le style, la structure de l'œuvre philosophique. Parce que je crois pour ma part qu'il y aura encore des œuvres philosophiques. Et je crois que dans ce projet de totalisation ou dans ce style de l'œuvre philosophique, nous avons aujourd'hui quelque chose à prendre, indépendamment des sciences positives et des sciences de l'homme, et que le projet philosophique de Hegel non seulement nous intéresse, mais que nous sommes obligés de refaire ce qu'a tenté Hegel sur les deux plans où il l'a tenté, sur le plan de la phénoménologie et de la logique, parce que nous le voulions ou non, quelles que soient les réussites remarquables des sciences positives, nous ne pouvons pas ne pas tenter de traduire pour nous, hommes, le sens qu'elles présentent pour nous. Nous sommes obligés de faire œuvre philosophique, et naturellement nous nous demandons, devant une œuvre philosophique, qui parle et quel est le style de l'œuvre philosophique. Nous le prendrons naturellement avec des réserves nécessaires. Nous ne suivrons pas Hegel jusqu'au bout, mais nous suivrons pourtant le projet qui a été le sien, lorsque, dans cette préface, il nous a décrit comment il entendait l'œuvre philosophique. Eh bien, avant de tenter de préciser ce style de l'œuvre philosophique, je voudrais m'expliquer, et je crois que cela fait partie de l'essence du sujet. Je voudrais m'expliquer et dire pourquoi. Le titre que j'ai donné est le langage philosophique dans la préface de la phénoménologie. C'est presque à M. Poulet que je m'adresse ici. Pourquoi est-ce que je n'ai pas dit la pensée philosophique de Hegel dans la préface de la phénoménologie? Pourquoi est-ce que j'ai dit le langage philosophique de Hegel? Il faut que je m'explique là-dessus. Il faut que je m'explique. Ne croyez pas que j'ai voulu sacrifier à la mode, que j'ai voulu moi aussi parler du langage en parlant de la pensée philosophique de Hegel. Non. C'est parce que, pour Hegel lui-même, il n'y a pas de pensée en dehors de cette unité du signifié et du signifiant, qui n'est pas d'ailleurs le monde, mais qui est le découpage significatif. Et l'organisation dans le découpage du monde, il n'y a pas de pensée en dehors de ce langage. Et pour employer une expression de Hegel, qui est une expression romantique, le langage, disait Hegel, c'est l'enfant de la pensée et l'instrument de la pensée. Pensée romantique, mais profonde. L'enfant, ça veut dire que nous ne nous séparons jamais du langage. Il est sujet. L'instrument, ça veut dire qu'il est outil. Mais cet outil n'est jamais isolable de cette proximité qui caractérise le langage. L'enfant est l'instrument de l'intelligence. Je crois donc que ce n'est pas en vain que j'insiste ici sur ces termes de langage, de discours et même de style. Et que je ne me suis pas contenté de parler de la pensée philosophique en l'opposant à d'autres formes de pensée, la pensée mathématique ou dogmatique et la pensée commune. Au lieu de dire pensée commune, je dirais langage quotidien. Et au lieu de dire pensée philosophique, je dirais langage philosophique. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que la philosophie de Hegel est dominée par le problème du langage. Ce langage dont j'ai cité tout à l'heure les termes avec Hegel, avec lesquels Hegel le caractérisait, l'enfant est l'instrument de l'intelligence. L'enfant parce que le langage est pour Hegel consubstantiel à la pensée, qu'il est notre milieu original et qu'il ne saurait se séparer d'elle comme elle de lui, l'instrument parce qu'il est le moyen de la signification et de la communication, mais un moyen qui n'a jamais l'objectivité complète de l'outil. Le langage, voilà le sujet-objet, ou l'objet-sujet. Quelle que soit la façon dont on travaillera le langage pour en faire un outil aussi perfectionné que possible, un outil dans lequel les termes auront une signification univoque, outil tel qu'il apparaît dans des signes mathématiques. Quel que soit cet outil, il y aura une traduction de cet outil dans un langage plus proche de nous et jamais séparable de nous-mêmes, qui est le langage quotidien, le commun langage. Et sans ce commun langage, il n'y a pas de pensée, car le découpage du monde se fait à travers cette langue commune. Mais comme l'a dit Gemzlev, je ne sais pas si je prononce bien les phonèmes, ce Gemzlev me paraît un très grand linguiste, mais un nom pour moi très difficile à prononcer. Eh bien, comme l'a dit Gemzlev, et c'est peut-être d'ailleurs contradictoire à son propre système, mais enfin il l'a dit, toutes les langues techniques peuvent se traduire dans la langue commune, et la langue commune ne peut jamais se traduire dans une langue technique. Elle ne peut pas se traduire sans reste dans une langue technique. C'est cela que veut dire Hegel lorsqu'il dit « l'enfant est l'outil de l'intelligence ». Et, pour citer encore un linguiste, lorsque Benveniste, dans un article un peu sceptique, mais si profond, lorsqu'il examine les différences qui peuvent exister entre les déterminations de pensée et les catégories du langage, cherche les déterminations de pensée dans le volume d'Aristote et dans les catégories, il découvre que ces catégories sont celles de la langue grecque et que les formes mêmes passent par l'intermédiaire de cette langue grecque. Sans doute, les langues sont traduisibles les unes dans les autres. Sans doute, il faut parler d'un langage dialectiquement universel. Elles sont traduisibles, croyez-moi, approximativement. Mais enfin, elles le sont approximativement. Il y a donc quelque chose de dialectique, mais il y a une inséparabilité absolue des découpages même du monde. Car découper en concept, c'est découper avec le langage. Et rassembler les choses, c'est les rassembler avec le langage. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il ne faille pas distinguer, et c'est ce que nous devons associer, les significations qui sont liées aux signes et ce qu'on appelle le référent, c'est-à-dire le monde. Le monde est atteint par les significations et les significations sont solidaires des signes et de la division des signes. Il y a là une communauté qui fait ce que Hegel appelait l'universel concret pris en lui-même. Tout le problème du langage est ici posé. Et son sujet aussi, car qui parle ? Eh bien, voilà donc pourquoi j'ai parlé du langage et non pas de la pensée. Dans le langage, nous dit Hegel, le moi, ce moi-ci, le moi qui en ce moment vous parle, ce moi, il est dit. Et en même temps qu'il est dit, il est entendu. C'est-à-dire que c'est universal, qui n'est pas comme les autres universaux. Ce jeu est à la fois subjectif et entendu par les autres. Et chaque fois, il est existentiel, puisque chaque fois, il désigne celui qui parle, au moment même où il parle. Eh bien, c'est seulement dans le langage que le moi est pour autrui, qu'il est universel, comme dit Hegel, et singulier à la fois. Le langage, ce sont des termes de Hegel, et cet objet qui est en même temps réfléchi en soi-même. C'est dans le langage que le monde se signifie et que la pensée est pour elle-même sujet et objet. Le milieu du langage, c'est la conscience de soi universelle, de l'être. Nous sommes dans la métaphysique hegelienne. C'est le logos. Toute la phénoménologie développe cette thèse sur le langage et la répète à différents niveaux. La connaissance est possible parce que dès la certitude sensible, dès le balbutiement de la conscience commune, joue ses embrayeurs, comme on a traduit Schiffer, mais enfin, ses pronoms, je et tu, ses déterminations originales du ceci, de l'ici et du maintenant, qui joue à la fois d'une façon universelle et proprement singulière. Hegel a dit que la condition même du dialogue était déjà dans cette condition du langage. Il ne faut pas dire qu'il y a le dialogue et puis ensuite le langage. Il y a les conditions même de l'intersubjectivité dans le langage lui-même. C'est une condition. C'est à partir d'eux que le dialogue et la détermination peuvent devenir effectifs. La conscience commune, celle que sonde Hegel dans la phénoménologie, la conscience commune ne sait pas toujours ce qu'elle dit. Et elle ne sait pas toujours qui parle en elle. Ces phrases, au temps de Hegel, pouvaient paraître mystérieuses. Je crains qu'aujourd'hui, elles ne vous paraissent banales. Nous savons bien que quand la conscience commune dit et parle, une autre conscience peut parfois l'entendre mieux qu'elle ne s'entend elle-même. Et le dialogue psychanalytique est là pour le justifier. La conscience commune, donc, ne sait pas toujours ce qu'elle dit, et toutefois elle le dit. C'est dans le langage et dans son exercice que l'esprit existe. S'il y a une diversité de langues, comme il y a une intersubjectivité, cette diversité est contenue dialectiquement dans l'universalité du langage humain. Certes, nous regrettons que Hegel ne vive pas aujourd'hui et qu'il n'ait pas poussé plus loin sa réflexion sur le langage et sur les langues. Nous ne pouvons tenter que de prolonger sa pensée. Je voudrais vous dire que justement, dans la phénoménologie, le langage apparaît comme cet élément fondamental de la pensée. Nous avons dit que dès le balbutiement de la conscience commune, dès la certitude sensible, pour atteindre les objets singuliers du monde, c'est à travers des significations spécifiques, spécifiques et universelles. Je, tu, ceci, ici, maintenant, que nous pouvons les atteindre. Mais Hegel est allé plus loin. Et cette fois-ci, il faisait déjà un peu de Barthes, ou il refaisait de l'Aristote, aussi, à certains égards. Le langage n'est pas seulement cette condition du dialogue ou de la connaissance, il est encore le style d'une culture, ou l'expression fondamentale d'une culture, la rhétorique d'une culture. Et cela, c'est toute la phénoménologie qui nous le raconte. Parce qu'il suffit de regarder une table des matières pour s'apercevoir de tous les niveaux où joue le langage. Il y a d'abord le langage du commandement dans la vie éthique. La fonction, je ne sais pas comment dire les linguistes, conatives, je crois. La fonction de commander. La fonction impérative du langage. L'ordre. Il y a le langage qui, au lieu d'avoir un contenu, agit par sa seule forme de langage. Je le jure, je donne ma parole. Il y a, enfin, le langage qui est le style d'une culture particulière, le langage de l'honneur et de la flatterie, le langage du déchirement qui apparaît dans Le neveu de Rameau, l'œuvre de Diderot analysée par Hegel dans la phénoménologie. À la fin de la phénoménologie, quand Hegel traite de la religion et quand il parle de l'œuvre spirituelle, il montre comment le monde est dit dans l'épopée. Et plus tard, dans l'esthétique, il dira que le roman est l'épopée du monde moderne. Le roman est l'épopée bourgeoise. Il découvrira la prose du monde à ce tournant que représente Don Quichotte. Le jour où succède au roman de chevalerie la prose du monde et où l'ère romanesque, en un autre sens que l'ère épique, commence. Eh bien, il nous dira comment le monde est dit dans l'épopée, comment la subjectivité s'exprime dans la fluidité de l'œuvre lyrique, comment enfin le théâtre, tragédie et comédie concilient la subjectivité du moi et l'objectivité du monde, la liberté et le destin. Avec la religion, avec ses expressions esthétiques, dont Hegel montrera plus tard qu'elles aboutissent à l'œuvre poétique et qu'il n'y a de voix du silence que dans la mesure où elles sont interprétées par la parole ou par la littérature. Culminant par conséquent dans la poésie. Poésie dans un sens très général. Mais pour Hegel, après cette poésie, il y a encore, ou après ce roman, il y a un autre roman, qui est le discours philosophique, Seulement, ce discours n'est plus celui de la représentation, mais dit-il, du concept. Il est l'essence même du langage, des significations comme telles et de leur médiation. Dans la préface de la phénoménologie, Hegel examine ce caractère du langage philosophique comme succédant à quelque chose d'autre. La philosophie, c'est, pour Hegel, ce qui, d'une certaine façon, succède à la religion. Il faudra bien qu'on dise encore le monde d'une certaine façon, et qu'on le dise autrement que dans un roman ou dans un mythe. Mais il faudra encore le dire, et l'œuvre philosophique, ce sera proprement ce roman qui suit une norme de vérité, et qui sera, nous dirons aujourd'hui sans être hegeliens, un projet de totalisation, beaucoup plus qu'une totalité, remettant une finitude qui, comme j'essaierai de vous le dire tout à l'heure, ne manque pas dans l'hegelianisme même. Nous comprendrons mieux Hegel si nous envisageons ou si nous nous représentons ce que furent ses travaux de jeunesse et les premières manifestations de sa pensée. Hegel n'a pas commencé par être philosophe au sens technique du terme. Il ne savait pas lui-même ce qu'il faisait. Il s'est dit ensuite que ça devait être ça, la philosophie. Il faisait quelque chose qu'il avait vu faire ou qu'il avait médité à propos de ce qu'on appelait les philosophes français du XVIIIe siècle, et dont on m'apprenait malheureusement en classe de philosophie que ce n'était pas vraiment des philosophes, mais lui, Hegel, pensait que c'était là les vrais philosophes. Il lisait Diderot, il lisait Voltaire, il lisait Rousseau, tout particulièrement, comme d'ailleurs Kant avait lu Rousseau, et il se demandait comment rendre compte d'une certaine situation du monde. Comment la religion avait été, à un moment donné, la façon dont les peuples prenaient conscience et racontaient le monde. Lui, Hegel, rendait compte que peu à peu, à la religion se substituait ce qu'il appelle la philosophie. Et cette philosophie reprend tout ce que l'histoire de la philosophie a apporté. C'est à ce moment-là que Hegel est devenu un technicien de la philosophie. C'est une erreur de croire que Hegel a commencé par lire la critique de la raison pure, il a lu la religion dans les limites de la simple raison, et la critique de toute révélation de Fichte, et il a discuté là-dessus. Il avait une culture antique, très profonde, comme on pouvait l'avoir à cette époque, c'est-à-dire, il y manquait certaines choses, mais du moins du point de vue de la langue, il connaissait admirablement la pensée grecque telle qu'on pouvait la connaître en son temps. Et il se demandait ce que le christianisme avait apporté ou n'avait pas apporté. Hegel était un esprit en même temps très positif. Nous savons par Lukács, si vous voulez, autant que par les écrits théologiques commentés par Noll. Nous savons à quel point Hegel s'est intéressé aux problèmes économiques de son temps. D'une manière qui nous paraît même étrange, parce que l'Allemagne, après tout, n'était pas telle qu'il puisse voir autour de lui. Il voyait les problèmes politiques et les problèmes de principauté qui s'affrontaient. Mais comment pouvait-il prévoir le développement de l'économie? Il avait lu Adam Smith. Plus tard, il a lu Ricardo. N'est-ce pas? Mais, et Sismondi, si je ne me trompe, dans la philosophie du droit. Mais en tout cas, la connaissance d'Adam Smith et de la théorie des richesses domine à ce moment-là le problème. C'est dire que Hegel essayait de reprendre dans une œuvre proprement philosophique quelque chose à quoi la religion avait peut-être répondu spontanément autrefois. Si nous nous représentons bien ça, nous comprendrons mieux, sans doute, ce qu'a voulu faire Hegel. Par une sorte de paradoxe, cette phénoménologie de l'esprit dont le nom est devenu célèbre, vous savez que ce nom remonte à Lambert, que la comparaison entre la phénoménologie de Hegel et la phénoménologie de Husserl et les études phénoménologiques, cette comparaison s'impose à nous aujourd'hui, mais enfin, elle n'a pas de filiation historique véritable. Par une sorte de paradoxe, la phénoménologie de l'esprit, qui nous paraît si difficile, est une réflexion sur la conscience commune, et nous dirions aujourd'hui, et très, d'une manière qui est parfaitement justifiable, parce que j'ai pu vous en dire sur la culture, ou sur les romans, ou sur la parole, nous dirions aujourd'hui sur le langage quotidien. Sonder, scruter ce langage quotidien et la conscience commune, l'expérience commune, voilà ce qu'a voulu faire Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. À la fin de sa préface, Hegel, qui devait avoir quand même une naïveté, comme tous les philosophes spéculatifs, dit qu'on va le comprendre bientôt, et que jamais une œuvre ne vient quand il n'y a pas un public à ses murs pour la recevoir. Je crois bien qu'il a fallu beaucoup de temps pour qu'on comprenne la phénoménologie de Hegel. Le système hegelien, l'encyclopédie, la philosophie du droit, ont été commentés largement, une influence hegelienne a eu lieu dans toute l'Europe. Mais la phénoménologie de l'esprit, c'est une œuvre dont on peut dire que, je pense à Kojève, je ne pense pas à moi, dont on peut dire que nous l'avons découverte dans une large mesure. Nous l'avons découverte et nous avons découvert ce qu'il y avait d'extraordinairement riche dans cette œuvre. Et en même temps, nous avons découvert quel dessin original il y avait là. Je vais parler en mon propre nom, je ne sais pas qui parle. Enfin, cette fois-ci, ça sera, c'est celui, c'est le locuteur, c'est moi qui parle. Enfin, je parlerai de mon passé. Et je dirais que la littérature m'intéressait bien davantage que la philosophie, je dois vous l'avouer. Enfin, l'idée de passer par la dictature de la critique littéraire me gênait un peu. Je pensais qu'en philosophie, je serais plus libre. Seulement, comment trouver une œuvre dans laquelle il me serait possible de relire ou de lire pour la première fois toutes les grandes œuvres littéraires? Comment était-ce possible? J'étais allé voir Lançon quand j'étais élève de l'École normale supérieure et j'avais demandé l'autorisation de faire un petit voyage en Espagne. Il m'a dit « Pourquoi faire ?» J'ai dit « Pour étudier Don Quichotte. » Il m'a dit « Vous connaissez l'espagnol ?» Je lui ai dit « Non, je l'apprendrai. » Quelques temps plus tard, j'ai trouvé dans ma case un petit papier de Lançon. « Mon cher camarade, disait le directeur, mon cher camarade, vous devez être un peu fatigué. Voici une bourse Lavis pour aller passer quelque temps à la Bretagne. Je vous conseille de ne pas aller en Espagne. » Eh bien, s'il n'y avait pas eu Hegel et s'il n'y avait eu que Lançon, je n'aurais jamais lu Don Quichotte. Mais grâce à Hegel, j'ai découvert Don Quichotte et tant d'autres choses. La tragédie grecque que M. Vernant m'a aidé à comprendre, en même temps que Hegel. Mais la tragédie grecque, c'est avec Hegel que je l'ai lu, avant de lire Nietzsche, c'est les origines de la tragédie. Et tant d'autres choses. C'est dire que cette œuvre me donnait une chance inespérée. La possibilité d'être scrupuleux et de travailler sur un texte, et en même temps d'ouvrir le champ immense d'une vaste littérature, celle que Hegel, lui, n'avait pas craint d'aborder, alors que moi, philosophe timide, je restais derrière lui pour le suivre dans ses découvertes. Eh bien, ce voyage de découverte de Hegel, cette phénoménologie de l'esprit, elle nous séduit parce qu'elle est un grand roman de culture. Quand j'ai fait ma thèse sur la phénoménologie, j'ai dit que c'était le William Meister. Mais aujourd'hui, je sais aussi que c'est la vie de Marianne. Je sais que tous les romans du XVIIIe siècle, Hegel les connaissait. Et qu'il a écrit un roman philosophique. À quoi les philosophes sérieux vont dire « Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la littérature. » Mais nous ajouterons que non seulement Hegel a écrit un roman dont les diverses parties s'agencent plus ou moins bien, et l'enchaînement des parties de la phénoménologie est une question sur laquelle il faudra encore méditer longtemps à supposer qu'il existe pour le trouver véritablement. Mais le mouvement d'une pensée, dans un roman et peut-être dans l'histoire, n'est pas, comme on dit, quelque chose d'analytique, pour parler le langage sérieux des philosophes. S'il est quelque chose de synthétique, fut-il synthétique a priori, il y a là quelque chose où l'enchaînement ne se découvre pas si facilement que cela. Eh bien, non seulement Hegel a donc écrit un grand roman de culture, la terrestre comédie, mais encore, il a frayé une voie extraordinairement originale et qui est encore un problème très actuel. En effet, qu'est-ce que représente la phénoménologie ? La phénoménologie, c'est la science de l'expérience commune. Y a-t-il ou non, dirait avec M. Derrida, y a-t-il ou non un langage quotidien et une expérience commune ? Enfin, il faut bien qu'il y ait quelque chose, il y en a une. En tout cas, la science a supposé qu'elle soit possible de cette expérience commune, la science de ce langage quotidien, l'inconscience de cette soi-disant conscience. Voilà le problème qu'ouvrait Hegel, et il est possible que la solution que nous serons amenés à lui donner ne soit pas la phénoménologie de l'esprit de Hegel de 1807, mais en tout cas, il ouvrait là une voie très profonde. Dans sa préface, cette préface qui me sert de base, dans sa préface, Hegel nous dit que la science, ce qu'il appelle la science, Hegel, c'est la philosophie, et non pas les sciences positives. Dans sa préface, Hegel nous dit que la science, si elle restait en dehors de la conscience de soi commune, de ce langage quotidien, de cette vie de tous les jours, si elle restait en dehors, elle serait ineffective, c'est-à-dire elle serait sans réalité, elle serait un en-soi. Il faut donc que la science prenne son départ dans l'expérience commune. Et j'ajouterai, il faut qu'elle y revienne. Il faut qu'elle y revienne, c'est-à-dire, comment pourrait-il y avoir un projet humain ? Comment pourrait-il y avoir une véritable réflexion si toutes les sciences positives, aujourd'hui je parle maintenant des sciences positives, si toutes les sciences positives, dans la mesure où elles élaborent, à partir du langage et de la conscience commune, si elles élaborent un langage technique absolument rigoureux et qui permet des maîtrises successives, comment n'est-il pas exigeable que, à leur tour, ces langues techniques, ces maîtrises techniques retrouvent un sens dans la conscience commune ? Ceci, sans une vulgarisation, comment cela sera-t-il possible ? Mais si cela n'était pas possible, c'est-à-dire si une œuvre philosophique qui irait de la conscience techniquement organisée dans ces langues techniques à la conscience commune, si ce chemin n'était pas susceptible d'être parcouru dans les deux sens, eh bien il faudrait désespérer de nous dans une large mesure. Il faut que nous puissions le faire, et ce sera toujours un projet et jamais une totalité réalisée, bien sûr. C'est en cela que je ne suis pas hegelien. Donc, il faut que la conscience commune découvre en elle l'apparition de la science. Ainsi, cette conscience surmontera son inconscience profonde, car elle se méconnaît elle-même. Elle ne sait pas ce qu'elle dit ou fait. Pourtant, le philosophe ne doit pas se substituer à la conscience commune. Admirez ici la manière de procéder de Hegel. Il doit suivre cette conscience dans ses expériences théoriques et pratiques. Il doit la recueillir dans l'élément du savoir. Hegel dit l'élément comme nous disons l'élément marin, jusqu'au moment où, dans ce que Hegel appelle le savoir absolu, la conscience commune en arrivera à dire « Mais ce que vous venez de découvrir, je l'avais toujours su, un peu comme le dit Édipe à la fin de cette immense enquête qui le conduit à des découvertes aussi tragiques. C'est seulement quand la conscience commune reconnaîtra la conscience philosophique et quand la conscience philosophique aura pu se saisir dans la conscience commune, c'est à ce moment-là que la psychanalyse sera achevée, que la science sera vivante, et que la conscience commune sera scientifique. C'est à travers ce dialogue que se pose le lien entre la philosophie et la conscience commune. Car ce qui est remarquable dans cette histoire de la conscience commune et de son langage, c'est qu'elle est toujours, et dès le départ, un dialogue interhumain. Et que l'élément du dialogue, le « je » et le « tu », le moi, mais lui aussi, c'est un moi. Moi, je suis ici. Et il fait jour. Mais là-bas, à Paris, c'est encore ici. Et il fait peut-être nuit avec le décalage des heures. Il se trouve que ici, maintenant, moi et l'autre moi, nous sommes dans une confrontation permanente. Et que c'est à travers cet élément du dialogue que passe l'élément cognitif. Le savoir passe par la communication et d'abord, comme vous le savez, par l'inégalité des consciences qui se rencontrent. Cette inégalité, le maître l'esclave, c'est un problème trop connu pour que j'y revienne. Cette tentative de présenter la conscience commune, d'en suivre l'histoire, de voir germer en elle un savoir plus profond qu'il ne lui semblait d'abord, et une acquisition définitive de notre pensée. Nous pouvons trouver que Hegel n'a pas résolu la question qu'il avait posée, qu'il n'a pas tenu compte, comment l'aurait-il pu à cette date, de toutes les sciences positives et de leur relation à la conscience commune, problème pour nous si important, et que Husserl a abordé pour sa part dans les dernières œuvres, dans la crise, quand il s'est demandé quel était le rapport entre les techniques des sciences et leurs germes communs. Mais nous ne pouvons méconnaître le problème qu'a posé Hegel d'une relation de ce savoir scientifique au savoir commun, du langage scientifique au langage quotidien. Si l'œuvre littéraire, si les romans de culture auxquels Hegel se réfère explicitement sont une présentation imaginaire d'une vie exemplaire, que sera donc l'œuvre philosophique dans la mesure où elle présentera la conscience commune? Quel sera le caractère de cette présentation? À quelles conditions le discours que nous tenons deviendra-t-il un discours philosophique? Vous allez m'excuser si, pour égayer un peu la matière, j'essaie de présenter d'une façon paradoxale le style du discours philosophique. On disait un jour d'un philosophe, vous savez, il est philosophe. C'est-à-dire que quand vous lui posez une question, et quand il consent à y répondre, ce qui n'est pas toujours le cas, vous ne savez plus quelle question vous avez posée. Et oui. Le philosophe, dans son discours, je continue le paradoxe, dans le discours d'un philosophe, on ne sait pas qui parle et on ne sait pas de quoi on parle. Non, ne prenez pas ça pour de l'ironie, car tout l'effort de Hegel dans cette préface est de montrer que s'il y a un discours philosophique, ce discours ne distingue pas le soi du savoir et le soi de l'objet. Faisons bien attention, le soi de l'objet, c'est la chose en soi, pourtant c'est le noyau, c'est l'irréductible chose qui fait l'objectivité. Et en général, on se replie sur un sujet qui, faute de découvrir l'objet, relie lui-même les prédicats, les uns avec les autres, et en construit la cohérence. De telle sorte que ce que Hegel critique, c'est à la fois la pensée représentative, c'est-à-dire celle qui a toujours recours à une explication par le contenu du dehors, et la pensée formelle, c'est-à-dire celle qui fabrique des cadres pour une chose reçue de l'extérieur. La vraie pensée philosophique pour Hegel est une pensée où le savoir n'est pas un instrument extérieur à la chose reçue, c'est la chose reçue qui se dit elle-même. C'est elle qui parle, et le style d'une pareille pensée s'appelle la dialectique. Elle est le rythme du moi qui s'est oublié lui-même et des choses qui se pensent dans le moi. Bien sûr, on pourrait presque dire que c'est Dieu qui parle, et ça paraît un peu fort. Mais enfin, il y a bien quelque chose de ça dans un vrai discours qui se veut philosophique. Il y a bien quelque chose de cela. Quelque chose où justement, il n'y a ni un savoir qui est un cadre formel. La critique que Hegel fait du formalisme, c'est la critique des cadres et des moyens pour connaître qui sont distincts de la chose connue. Le style philosophique, c'est celui où la chose se présente elle-même, où le discours est la présentation même de la chose. Comment cela est-il possible? Comment celui qui parle est celui qui, en quelque sorte, sait, et la chose qu'il sait, peuvent-elles former un mouvement qu'il a présenté Hegel souvent comme l'histoire ou une genèse historique? Comment un pareil récit est-il concevable? Et quel est le style de ce récit? C'est ce que Hegel a tenté de nous présenter. Évidemment, la grosse difficulté, c'est, et je vous renvoie pour ça à cette préface elle-même, c'est de montrer comment il y a deux types de pensées que Hegel refuse. Une pensée qui est tout entière enfoncée dans le contenu, c'est la pensée matérielle. En fait, elle est égocentrique, car elle ne se rend pas compte qu'elle est elle-même engagée dans l'affaire. Et puis, il y a la pensée formelle, qui édifie des cadres ou des rapports, et qui se réfère à un objet qui devient une chose en soi, un noyau inconnaissable, et qui est toujours obligé de demander le contenu au dehors. Entre cette pensée formelle et cette pensée matérielle, y a-t-il un style de récit possible où celui qui sait est engagé lui-même dans la chose sue? Mais c'est à Diderot, je pense, qui disait « Je suis aussi quelquefois m'aliéné » et c'est indispensable dans une grande œuvre littéraire. La phrase « indispensable dans une grande œuvre littéraire » n'est peut-être pas dans Diderot, mais « Je suis aussi m'aliéné » c'est une phrase de Diderot. Or, c'est cela que nous propose Hegel. Il nous propose que le philosophe fasse un discours qui soit le discours et le rythme des choses elles-mêmes. Et il nous le présente sous deux formes diverses. Et ces deux formes, je vais les reprendre parce que je crois qu'elles constituent ce que nous devons encore à Hegel et ce que nous pouvons lui emprunter. Il y a, mettons la parole et la langue, le langage, et il y a la phénoménologie et la logique. Hegel a tenté l'œuvre philosophique dans deux voies différentes. D'un côté, il y a le langage quotidien, la conscience commune, et le philosophe qui parle sur la conscience commune et qui découvre au fond de la conscience commune, quand elle ne le sait pas elle-même, les déterminations fondamentales, les articulations qui structurent toute la langue qui anime la conscience commune. Et par ailleurs, il y a cette langue qui renferme les déterminations de la pensée et ses articulations, et qui est ce que Hegel appelle le logos, une logique qui n'est pas la logique formelle d'autrefois, et qui est tout à la fois l'architecture de la langue universelle, des structures des langues, dans lesquelles toutes les déterminations de pensée s'enchaînent les unes aux autres. On pourrait dire que Hegel était obsédé, d'ailleurs, du point de vue de cette logique. Il était obsédé par le sentiment du caractère artificiel de la culture dans laquelle nous vivions. Il était obsédé par l'écriture, d'une certaine manière. Et enfin, ce qu'il a voulu faire en faisant une logique, c'est redonner à l'écriture le mouvement de la parole vivante. L'écriture, ce sont les déterminations, les articulations auxquelles la pensée se fixe dans la langue et qu'elle, en quelque sorte, qu'elle réalise dans des œuvres écrites, dans des déterminations accumulées. Hegel était obsédé par le risque que nous soyons un jour recouverts par les bibliothèques. Je développe un peu le thème. Et il voulait montrer que toutes ces articulations sont elles-mêmes une vie, une dialectique. De sorte que les deux projets que nous laisse Hegel, avec naturellement l'exigence de les envisager d'une façon un peu différente de la façon dont il les a envisagés lui-même. Les deux projets que nous laisse Hegel, projet de la phénoménologie et projet de la logique, sont encore les nôtres. D'une part, l'analyse du langage quotidien et tout ce qu'on appelle phénoménologie de la perception. C'est proprement cette analyse faite par le philosophe. Ça, c'est la phénoménologie de l'esprit. Et d'autre part, la recherche de toutes les articulations qui constituent la structure et l'architecture des langues. Est-ce qu'une pareille œuvre est possible ? Dans un cas, le philosophe s'est perdu dans le système et dans l'architecture des déterminations de pensée. Dans l'autre, il se trouve dans la conscience commune. À mon avis, le grand moment de Hegel, c'est celui où il a été l'oscillation entre cette architecture qui s'appelle la logique et cette phénoménologie qui est la conscience commune. Après ça, il a voulu faire un système, l'encyclopédie. Mais en fait, c'est le mouvement qui va de l'une à l'autre qui est pour nous fondamental. Parce que la conscience commune, telle qu'elle apparaît dans la phénoménologie, cette conscience commune n'est pas sans la conscience du philosophe qui la suit, qui la raconte, qui la recueille. Mais inversement, nous ne serons pas tels que nous pensions que la conscience du philosophe, c'est la conscience de Dieu qui parle dans le philosophe. Nul ne peut pousser si loin l'orgueil. De sorte que les deux grandes œuvres de Hegel sont chacune relatives l'une à l'autre. Quand Hegel décrit la conscience commune, le philosophe est toujours là, qui la recueille et qui y pense. Et quand Hegel décrit les articulations de la pensée, il dit, ah oui, ça s'est passé dans l'histoire, le jour où Platon est arrivé, ça c'est Aristote. Il y a le philosophe individuel qui recueille les articulations de la pensée. La conscience commune accompagne la recherche des articulations de la pensée. Et inversement, ces articulations sous-tendent dans leur découverte l'histoire de la conscience commune. De telle sorte que le discours du philosophe. Ce discours où on cherche qui parle en même temps qu'on traite de l'objet dont on parle, ce rythme du discours philosophique est atténué par le sens de la finitude qui l'accompagne. Cette finitude, on a reproché à Hegel de ne pas l'avoir reconnue en disant qu'il se mettait à la place de Dieu. Hegel la connaissait très bien. Il savait qu'il y avait du non-sens et que le non-sens était parfois irrécupérable. Il y a des lettres perdues, il y a des causes perdues. Mais, tandis qu'une théologie négative admet qu'il y a un sens au-delà du sens, pour Hegel, ce qui est récupérable se fait sens, ce qui est irrécupérable, c'est la part de non-sens qui investit tout sens. Et cette différence, il l'appelle la différence absolue. La pensée pense la différence, mais la différence absolue est autre chose que la pensée. Il a donc connu la finitude par l'investissement du non-sens dans le sens, par la part de non-sens qu'il y a dans le sens. Et on ne peut pas dire, par conséquent, qu'il s'est mis ici à la place de Dieu. Car il savait bien que même quand il cherchait les articulations universelles de la pensée, c'était encore un philosophe concret qu'il cherchait. Il savait bien, selon un mot de mon ami Merleau-Ponty, auquel il faudrait ici donner la plénitude de son sens, il savait bien qu'il n'y a pas de philosophe sans son ombre.
After such a communication, the use of language which consists in thanking a speaker for his paper seems inadequate. I will simply call now on Professor Loewenberg to make the first comment on Professor Hippolyte's paper.
I certainly welcome the opportunity to make a few brief comments on a paper which is so full of ideas and has behind it erudition, as exemplified in Monsieur Hippolyte's translation of the phenomenology and his commentary. And it's certainly a remarkable feat of condensation. To put practically his whole interpretation of Hegel into such a brief compass. I know he excluded a great deal, but what he included is all in his great books. I am to a large extent in agreement with the general view expressed in Monsieur Hippolyte's paper, especially his appreciation of the phenomenology as a work of literary art comparable to the great literary masterpieces which he mentioned, such as the Divine Comedy and so on. And obviously he does not try to compare in structure or in development Hegel's phenomenology to, say, Spinoza's ethics. The crucial problem, of course, any comparison between a literary work of art and a philosophical work of art, which also has the imagination and the vision and the perspective of a literary work of art, is its truth. And that's the crucial problem, of course, about the truth of Hegel's phenomenology, whether judged by any standard other than Hegel's, admitting there are standards other than Hegel's, and even by Hegel's standard itself, you know, whether it's true. But Monsieur Hippolyte limited himself largely to a chief discussion about the preface. And as he knows, as he has expressed it in his books, though written ostensibly to the phenomenology, it certainly was not written, it was written after that the work had been completed. And, and then not only did he limit himself to the preface, but his main center of attack was the language in the preface, you know. Now, of course, the preface is a philosophical manifesto couched in a form and diction which presupposed which presupposes, of course, the subsequent system. And Hegel himself disavowed the intention of telling in the preface what he was going to develop in the system. The trouble is, you see, that there is a certain circular relation between the preface and the system, for which the vocabulary, the language that Hegel uses, was needed. As a matter of fact, you can't understand, if you read the preface alone, Hegel's language, but until you know the system, and you can't know the system without the language. So that's one of the difficulties of Hegel's work. Unless you learn that vocabulary, you don't understand it. But on the other hand, the vocabulary is already presupposed. I mean, you have here a very, very serious circle there. Now, the language. There are, of course, the relation of Hegel's language, which he needs for the articulation of his system of philosophy, and the languages used in other philosophies. Of course, as Monsieur shows, Hippolyte shows in his paper, that Hegel seems to condemn as non-philosophical any language other than his own, which is another difficulty. After all, there are other languages, and we don't need to reject them as non-philosophical until Hegel had established in his system that the only philosophical language is a dialectical method as Hegel propounded and developed it. So there's another difficulty about the preface. It's a manifesto which is couched in a language which to the ordinary, using ordinary language, is simply unintelligible. Hegel himself says it requires a person that kind of effort comparable to one walking on his head. So Hegel himself was quite aware of the difficulty of the problem. Now there is another problem about language. Hegel, the relation of Hegel's own language, which he employs to characterize his philosophy, and especially the ways of thinking or the forms of consciousness as developed in the phenomenology. Now, the dialectic in the phenomenology is based on the linguistic expressions of various ways of thinking, beginning with sense certainty, through perception, understanding, self-consciousness, various forms of rationalism, and then going on to other ethics and religion and so on. But after all, the phenomenology is based upon the law of contradiction. That which is contradictory cannot be sustained. But after all, what but diction can be opposed, can be contradicted? Only diction can be contradicted. And it's that, I think, is the key to what Jose Hippolyte has so eloquently and persuasively shown, that thought and language are interdependent, which he calls consubstantial. They are interdependent, one cannot exist without the other. Language expresses thought, and thought can only express the language, hence only diction can be contradicted. Without diction there can be no contradiction. And so that is really, in a way, a key to what Hegel is doing with the various languages that are employed in the phenomenology. Each ways of thinking has its language peculiar to it. Every way of thinking has a language which is idiomatic. There is an idiom for every way of thinking. And it's that idiom which Hegel pushes to an extreme to show that that idiom, obviously necessary for the expression of a certain way of thinking, that idiom becomes self-inconsistent. In other contra- it doesn't say what it means and it can't mean what it says. The language that it has to use is self-contradictory and therefore has to be transcended, has to be aufgehoben, and so on. Now, I should say that all philosophical languages are idiomatic in the sense of being peculiar to different systems of thought they are embodied in. To demand one philosophy to speak another language, or to demand one philosophy to give up its method of using a certain language, is to demand that it give up its philosophy. Because, after all, just one example, we can't expect vitalism to speak the language of mechanism, nor can we expect mechanism to speak the language of vitalism. To ask mechanism to give up its language is to ask it to give up mechanism. But whether mechanism is a sound philosophy or not, or whether vitalism is truer than mechanism, that's another matter. As far as language is concerned, it can't use any other language. Hence, well, we heard last night, theorists about language have to use different languages. So whatever theory you propound, whatever subject matter the theory is about, calls for a certain language and for a certain method. Now, there is a difference, after all, between genus and species applied to philosophical languages. Now, is there a generic language of which other languages are species? Or is every language sui generis? To apply to Hegel, is Hegel's language, which he uses in the preface to the phenomenology, sui generis, or is it but a specific mode of thinking, which we're not obliged to adopt, you know? In other words, is it the philosophical language, or is it a philosophical language? Now, as I follow the resume of Hippolyte's paper, he seems to argue that it is the structure of philosophical language, as if it were the philosophical language. And of course, he seems to agree that non-philosophical languages are those which Hegel himself in the preface rejects as non-philosophical. And that's a very crucial point. Now,
a plea for a philosophical language as generic, which Hegel seems to make in the preface to his Phenomenology, until proved to be such a generic language in its application through the Phenomenology, this Hegel himself maintains. He himself maintains that the philosophy can only be judged by its results. You can't announce at the beginning a program of philosophy is not a philosophy. Only the development of a program can be called philosophical. And yet, the language seems to be presented in the preface as if it were the only language in which to develop the program of philosophy which he announces. Well, that seems to me a great difficulty. And up in the last analysis, the stumbling block to Hegel has always been and will always remain his absolutism. Now, there seem to be two phenomenologies and not one. And Monsieur Hippolyte himself recognizes the twofold nature of the phenomenology. In his translation, he groups in one volume the first three main divisions of the phenomenology, namely consciousness, self-consciousness, and reason. And he justifies it by indicating the difference between the three first parts of the phenomenology and the last part called spirit, to which he devotes a separate chapter, a separate volume. He himself seems to feel that there is a great difference between the two phenomenologies, namely the phenomenology comprising what Hegel calls consciousness, self-consciousness, and reason. And another, which is equal in bulk to the other three, spirit, which is a separate phenomenology. What is the difference? Now, I know Mr. Polite will disagree, and I propose it merely for a discussion. I wish people will ask that question so Mr. Polite can answer it. I myself would feel that the first phenomenology, consisting of perception of consciousness, self-consciousness, and reason, is a humanistic phenomenology. The other, dealing with spirit, seems to be a super-humanistic phenomenology. For there Hegel introduces his absolute spirit, his absolute being, self-revealing, self-sustaining, as if, for example, the absolute spirit were present in the dialectic of culture, in the dialectic of the social revolution, the French Revolution, in the manifestation of the Enlightenment, in the manifestation of the various religions, so that if God is light, it's the absolute spirit appears in light and knows itself as light. Now, that's a very, very difficult conception to adopt. And hence, the preface, as Monsieur Hippolyte expounds and interprets it, seems to be more germane to the second phenomenology, dealing with spirit, dealing with spiritual phenomena, rather than as dealing with the first part, that is, with the first phenomenology, dealing with which I call the humanistic part. After all, what is here important is to find out what the subject is that experiences all these things. See, Polite speaks of common sense and so on, or sens commun and so on. Human probably the generic mind. The mind viewed generically goes through, and there are many examples of the various forms of consciousness or ways of thought which Hegel traces the dialectical as well as the historical development of. Now, the generic mind is one thing. A superhuman being, an absolute spirit, or the Christian God transmogrified into an absolute is quite another thing. Now, it's the subject which whose experiences are recorded You know, that's a great stumbling block. Well, I always feel that the search for a universal language is comparable to the search for a universal method. Philosophers have been engaged for a good many centuries to arrive at a universal method of philosophizing. Now, if we admit different kinds of philosophy, if we admit of philosophical pluralism, I don't mean metaphysical pluralism, I mean the possibility of plural philosophies, many philosophies, obviously each philosophy will have its own method. And it's absurd to ask one philosophy to give up its method, because then it gives up its philosophy. Unless we assume, as Hegel in his History of Philosophy seems to assume, that all philosophies, each with its own method, are stepping stones to a all-comprehensive philosophy with its own method and the final and the absolute philosophy. And Hegel remains, as the Germans called him, soon after his death, der unwiderlegte Weltphilosoph. Now, of course, if one doesn't accept that dictum, one is naturally critical of Hegel's method as the only method. I usually speak of facetiously demand that one method and one method alone should be suitable to all subject matter. I'm speaking of philosophical subject matter. I say it comes pretty near where methodology becomes methodolatry, the worship of one method, you know. I am in the habit of speaking of methodology in the plural. There's the generic methodology, and out of which there are many species. And I don't know why the mathematical language that Hegel so dismisses as non-philosophical should not be used in a certain philosophical system. Hence, the philosophical search for a universal language is the same predicament, namely, one language alone is to be called philosophical, others being pseudo-philosophical, or partially philosophical, or erroneously philosophical, and so on. Well, if I may engage again in a wordplay, lingology, if we speak of lingology as the science of languages, may easily turn into lingolatry, the worship of a language as the language. And I think that's a very important consideration in commenting on Vasiopoulos' paper. The ultimate choice in dealing with Hegel is between a Hegel with and a Hegel without. The language announced in the preface as exclusively philosophical. Tout est là. Whether we ought to take Hegel, one Hegel, namely, with the language as announced in the preface as exclusively philosophical, or Hegel without that language. Another language. Hegel's message, couched in a language other than his, is still pertinent. And Monsieur Hippolyte shows how pertinent it is. It's strange he didn't use Hegel's language. He used his own wonderful French in conveying Hegel's message, you know. He didn't need Hegel's language, which shows the potency of Hegel's thought, you know, because it isn't dependent on his language. Hence, what we have, after all, the distinction in Hegel's whole phenomenology is the difference between a truth claim and a truth value. Hegel shows that any philosophical thought, any philosophical way of thinking, any human persuasion can make a truth claim. It claims to be true, and it claims to be absolutely true, and its claim is not identifiable with its value. It may have a truth claim, but no truth value. Hegel shows that its truth value is relative to a higher value, but that doesn't, we don't need to admit it. We can admit that any philosophical way of thinking can make a claim to being considered true as long as it doesn't ask to be considered as absolutely and exclusively true. And that holds, of course, to Hegel's system too. If I were to express what I learned from Hegel's phenomenology, although I can't claim to have been such a profound student as Monsieur Hippolyte, I would speak of it as dialectical pluralism. There is a dialectical, Hegel's dialectic justifies the assumption of a pluralism in philosophical ways of thinking. And Hegel's own method might well be regarded as inconsistent with his conclusion. If you accept the dialectical method as a valid method, we can't terminate the method by arriving at an absolute. On the other hand, if you want an absolute, you can't get it by the dialectical method. And that's, I'm suggesting it as a subject for discussion. Perhaps Monsieur Hippolyte will throw some light on it.
Je vais commencer. Monsieur Hippolyte se limite à la préface écrite après cours. C'est-à-dire le sang. Vous n'entendez pas bien?
Je n'ai pas. Je n'entends pas bien là.
Bon. Oui, j'adresse à vous.
Parce qu'il m'a manqué quelque chose dans le.
I think if we break for 5 minutes now for coffee, we can resume this discussion after a clarification of Mr. Lauenberg's remarks.
Again, it's a bit of a translation language.